L'idée de Jean Ricardou a toujours été de faciliter au maximum l'accès à la discipline pour les gens qui la voyaient pour la première fois et qui risquaient d'être épouvantés par un certain nombre de concepts qu'il ne fallait pas d'ailleurs asséner d'emblée avec leur lexique compliqué. Une carambole texturale, ce sera l'étude dans la perspective d'une initiation ou d'une initiatique textique, si on veut, d'une image, celle que vous avez au tableau, à l'écran. Pourquoi étudier une image? Comment est-ce que c'est possible que la textique s'occupe des images? Eh bien, cela dépend de la définition que Jean Ricardou a donnée et qui est extensive de l'écrit. Si l'écrit est une trace dans un champ qu'elle constitue, à partir du moment où elle apparaît, c'est pour ça que cette apparition, ce phénomène, prend le nom de fan, l'écrit inclut obligatoirement quatre types de catégories, quatre types de modes. Il y a quatre modes de manifestation de l'écrit. Imaginons un champ constitué par l'inscription dans un carré dont on ne tient pas compte d'une tâche quelconque. Nous avons affaire à un fanuscrit. Qu'est-ce qui définit le fanuscrit? Le strict fanuscrit, c'est le fait que la forme qui est là et la contre-forme qui est autour, parce qu'en fait, ici, dans ce champ constitué, il y a deux fans. Il y a le fan blanc et le fan vert environnant, coupé de façon arbitraire par l'encadré. Ces deux fans, ce couple de fans qui apparaît simultanément, sont des fans. Et quelle est leur caractéristique? Et c'est la première des le premier des régimes dont relève le fan, c'est que le fan ne produit pas à l'esprit d'autres idées que celles de lui-même. C'est-à-dire qu'un fan est un fan, et c'est une tâche ici, on peut le décrire de façon purement plastique, purement physique, sans dire ça représente ceci ou ça représente cela. Ça n'est pas représentatif, c'est le domaine du non-représentatif, c'est le domaine du présentatif. Donc, premier régime présentatif. À ce régime présentatif s'opposent trois autres modes qui entrent dans le deuxième régime, le régime représentatif, et la textique a ceci de particulier qu'elle a une ambition d'exhaustion. Jean Ricardou posait qu'il ne peut y avoir rien d'autre dans le régime représentatif que ces modes ou des combinaisons de ces modes-là. Alors le premier mode, c'est celui où la même matière se détache comme ici sur un champ qu'elle constitue et fait par exemple partie et permet d'inscrire un mot. C'est ce qu'on appelle le grammoscrit. Voilà un grammoscrit. Et ici, il est représentatif, donc le mot « coup » a les effets de représentation d'un orion, un coup, un frappement. Bon, je peux m'imaginer ce que cela, entre guillemets, signifie, et nous évitons le mot de signification, nous préférons dire ce que cela représente comme idée autre. Idée autre que les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fans qui sont là. Idée autre. C'est ça l'idée de la représentation. La représentation, c'est ça. Dans la troisième, nous avons le mode de l'iconoscrit, le mode de l'icône, donc. Ici, le même rond qui m'a servi à faire le haut peut me servir à faire quelque chose que j'identifie par expérience du réel comme, si l'on veut, un tapis vert et une boule éclairée par le rouge, un reflet et une ombre. C'est une boule de billard rouge que l'on appelle une carambole en termes techniques. Carambole, c'est, ça désigne selon Dupré la bille rouge, celle qui se place sur la bouche, dans un jeu qui se joue à trois boules, deux boules blanches et une boule rouge. C'est ce qu'on appelle le billard français, c'est la carambole. Ou bien ça signifie le coup dans lequel la bille du joueur va toucher deux autres billes, c'est-à-dire le principe même du jeu de billard français. Il faut qu'une bille touche les deux autres et le coup est gagné. Voilà donc une carambole au sens 1 du terme. Je la reconnais par l'image qui est là et qui renvoie à une idée autre que celle de ces différents fans, 1, 2, 3, 4, 5 fans qui sont là et qui jouent ensemble pour constituer l'image. Et ça renvoie donc cette idée autre et autre que celle de ces fans. Le troisième mode représentatif, troisième et dernier mode représentatif, c'est ce que Jean appelle le symbolo-scrit, et ici je peux spécifier symbolo-iconoscrit, puisqu'ici j'ai les trois boules de billard en triangle qui symbolisent dans toutes les enseignes d'officines de billard la présence d'un club. Le billard est symbolisé par ceci, et ici le symbole peut être évidemment soit iconique, soit grammique. Si je dis X, c'est le symbole grammique de l'inconnu en mathématiques. Le régime de la présentation et de la représentation s'achève là et tout rentre là-dedans. Après, ce ne sont que des combinaisons. Absolument tout rentre là-dedans, au niveau de la textique, hein, pour la textique, aux yeux de la textique. Voilà ce qui pourrait déjà faire l'objet d'un grand débat, mais revenons à nos billards. Qui sont là et qui sont intéressants parce qu'ils vont permettre de cerner ces diverses catégories à l'œuvre dans l'image. Cette affiche est signée Eugène Auger sur la queue à la droite de l'image. Eugène Auger est un affichiste caricaturiste du début du XXe siècle, élève de Chéret, de Jules Chéret, et qui s'est signalé par le fait qu'il faisait, quand il faisait des affiches publicitaires, c'était volontiers des caricatures. Il est célèbre pour une marque de chocolat dans laquelle il a mis toutes les cours d'Europe, tous les souverains d'Europe caricaturés en train de boire le même chocolat. Comme une sorte de communauté autour du chocolat, communauté internationale autour du chocolat. Elle vante donc les billards Braunschweig, qui sont la marque leader américaine des billards la succursale française se trouvait 19 rue de la Pépinière à Paris. Donc, ici, nous avons, à première vue, et même à deuxième vue, un iconoscrit. Un iconoscrit, en termes de régime, c'est donc de la représentation par l'image. D'emblée, on peut décrire cet effet représentatif de cette icône. Une scène à personnages, ou trois chauves, sont en train de scruter sur une table de billard prise en plongée trois billes, les trois billes que comporte le jeu de la carambole sur un tapis qui est orné de la marque billard Braunschweig. Alors, le mécanisme de la représentation
Il faut un peu le décrire pour pouvoir comprendre ce qui se passe comme mécanisme retors dans cette image. Il va y avoir des retournements, il va y avoir des stabilisations et des retournements mis en place par cette image qui est très intéressante à cet égard. Alors, le mécanisme de la représentation se fonde sur un échange. Hein. La lecture, c'est un échange, et la lecture de cette image, comme image 2, la scène de billard, c'est un échange entre ce que je viens de dire, scène à trois personnages, etc., et ce que nous avons sous les yeux. Il y a donc deux formes de signification, deux formes de manifestation. D'une part, l'affiche, et d'autre part, le discours que j'ai tenu dessus. Et ce sont deux, finalement, fans, puisque je pourrais l'écrire, qui s'échangent et qui, s'ils s'échangent, ils produisent, ils ne s'échangent pas sur la base d'une valeur qui leur serait commune, mais ils produisent la valeur qui est commune. C'est l'échange qui crée la valeur dans l'économie de la textique, si l'on peut dire. Équivalence idéale, ici un échange qui se fait déjà oralement entre ce que j'ai dit de l'image et l'image elle-même, mais on pourrait dire échange intermodal entre le mode de l'icône et le mode de l'écrit, déjà dans l'image elle-même, puisque je vois cette scène et l'on me signifie par écrit, gramoscrit, qu'il s'agit de billard, et on spécifie billard branche-figue que l'on peut trouver 19 rue de la Pépinière à Paris. Donc cet échange ici peut se faire entre l'icône de la table de billard avec ses billes et ses queues, puisque c'est de cela qu'il est question pour la vente, c'est cela qui est mis en vente, et d'autre part, cette marque de billard Braunschweig. J'apprends que ce sont des billards, et pour peu que j'ai la compétence linguistique qui identifie dans mon répertoire personnel la signification du mot billard, pour peu que j'ai... éventuellement, je pourrais ne pas avoir la compétence, l'expérience des billards, et je le découvrirai à ce moment-là. Je sais que maintenant, qu'un billard, c'est ça. Et j'imagine que ce ne sont pas les trois chauves, mais le matériel de jeu qui est là. Alors, ça, c'est le régime représentatif dans son exercice le plus basique, mais il va sans dire que ce régime représentatif s'accompagne en même temps, pas ici, parce que l'inscription et l'image se trouvent coprésentes, et l'échange entre au moins deux fans peut se faire, le fan iconique et le fan gramique, mais ordinairement, quand je vous parle de billard, quand vous lisez le mot billard dans un texte, par exemple, de Roussel, il en a un peu parlé, vous faites un échange qui est tout à fait différent. Un échange qui reste en quelque sorte suspendu, qui reste virtuel, puisque je lis le mot billard et je fais l'échange avec jeu particulier avec un tapis et des billes, et je le fais dans ma tête. Mais la caractéristique, c'est que au lieu de ce qui se passe ici, où je peux le faire vraiment concrètement, puisque j'ai les éléments coprésents, le fais de façon mentale. C'est-à-dire que le substitut de la définition du mot billard n'advient pas, je ne l'écris pas, il n'est pas écrit, il n'est écrit nulle part. Et le mot billard s'évanouit en quelque sorte quand j'ai attrapé la définition dans ma tête. Il y a là une sorte d'évanescence mutuelle des formes qui sont en jeu. Et c'est ça, le mécanisme de la rançon de la représentation, la rançon d'une représentation réussie ordinairement, c'est ce que la textique appelle un effet corrélatif, l'effet corrélatif d'occultation. L'effet occultatif, les signifiants, entre guillemets, pour parler linguistique, s'évanouissent au profit de l'idée, cette valeur commune que l'échange a générée. Voilà le premier problème de la représentation, c'est cette occultation, cet effet occultatif. Alors, pour contrecarrer cet effet occultatif, l'écriture a plusieurs moyens. Il y a un moyen premier, c'est de renforcer la représentation. Comment renforce-t-on une représentation ? Eh bien, on peut le voir, par exemple, s'agissant de faire comprendre qu'un trapèze est un triangle, est un rectangle, pardon. Ce trapèze est un rectangle, puisque ce trapèze représente la table de billard, vue sous un certain angle. Donc il faut faire comprendre ça. Il faut faire comprendre ça, et c'est évidemment l'effet de perspective qui est ici en jeu. Et l'effet de perspective ici me semble souligner, indiquer, surindiquer en quelque sorte par l'orientation des queues à gauche et à droite qui viennent épouser la ligne de fuite, la ligne de fuite, vers le point de fuite des deux côtés. Donc cet effet de représentation d'un rectangle par un trapèze se trouve ici souligné par ce dispositif, les deux queues à droite et à gauche. S'agissant du gramique, on peut considérer que Billard-Brunschvig est une inscription vraiment surmanifestée, dans la mesure où vous avez des lettres blanches sur fond vert. C'est le plus fort contraste dans toute l'image entre le vert des grammes et entre le blanc des grammes et le vert du tapis. Il y a un cerne noir autour de chacune des lettres. Il y a une mise en scène, il y a une sorte de grossissement très fort, tellement que ça atteint la disproportion. On voit que la table de billard est relativement petite par rapport à notre étalon de mesure qui sont les personnages nous permettent de mesurer si la table est proportionnée ou pas. Elle est disproportionnée, elle est très petite, et l'inscription est surdimensionnée. Voilà un effet que la rhétorique classique appelle un effet d'expressivité et que nous appelons un effet de hyper-représentation. Et même comme elle est accomplie et réussie, on parlera d'ortho-hyper-représentation. En même temps, tout à l'heure je parlais du trapèze, mais vous avez vu que le bord B et K, le bord des lettres et l'orientation des lettres, suit également ce point de fuite. Donc ici, le gramique... aide encore à identifier le trapèze comme un rectangle, avec cette façon d'épouser les lignes, les lignes de force de cette image. Bon, voilà un petit peu ce que l'on peut dire la représentation, et j'en viens à un problème de la représentation. C'est ce troisième personnage qui est là Et donc je peux vous poser déjà la question, pourquoi rougit-il? Pourquoi rougit-il? Je ne dis pas pourquoi sa tête est rouge, je dis pourquoi ressent-il dans la fiction, dans la diégèse de cette scène, j'ai parlé de scène, il y a donc diégèse, c'est un moment instantané à l'intérieur d'un suivi qui serait une partie de billard, par exemple. Pourquoi ce personnage rougit-il? C'est tout le problème. Et c'est tout le problème de cette image. C'est toute l'énigme de cette image. Cette image propose savamment une énigme à son spectateur, à l'acheteur du billard Braunschweig. Et la résolution de cette énigme va finalement nous aider à, enfin, nous allons analyser la chose de façon à nous demander, nous trouver une réponse, essayer de trouver une réponse. Qu'est-ce qui donc le fait rougir? Et qu'est-ce qui fait que les autres, les deux autres là, alors si on les décrit dans le détail, ils sont très variés. Celui qui a la main en visière n'a pas de lunettes, ni de lorgnon, ni de monocle. Le personnage cramoisi a un lorgnon, des bicycles, hein, lorgnon. Et le personnage qui esquive son bras, là, de l'autre côté, il a un monocle. Ça se voit assez peu, mais ça se voit quand même. Donc, cette variété est très, très intéressante. Elle est très importante dans l'effet de représentation des trois bonshommes, parce qu'elle assure, en quelque sorte, la représentation. Ce sont bien des personnages et sont bien divers, comme le monde, finalement, nous présente des spectacles divers, en principe, au départ. La diversité, c'est le mot même, la base même de la représentation. Donc, ces trois personnages, ils vont être, en fait, pris, l'image de ces trois personnages et l'image même des billards sont pris dans une surdétermination réciproque. C'est assez clair, ça se voit d'emblée, c'est la force de cette image que d'être très, très pédagogique. On va maintenant regarder de plus près. Pourquoi représenter ces personnages sous la forme de personnages chauves? Il y a une détermination, une surdétermination linguistique qui fait qu'en français, on le sait bien, les calvities sont volontiers raillées, du moins dans le passé, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus railler les chauves, on ne peut plus railler personne. Hein, ni les nains, ni les boiteux, ni c'est fini. Hein. Si vous le faites, gare à la prison. Mais il fut une heureuse époque où on pouvait regarder un chauve et dire « Ah, boule de billard !» Ça, c'est la détermination linguistique française. Hein. C'est en français, c'est pour ça que je parle en français. La technique est française, et le restera, monsieur. Donc, ça, c'est une première détermination. Mais il est évident qu'il y en a d'autres qui sont très importantes et qu'on ne saurait sous-estimer. Pour mettre trois joueurs autour d'une table, il n'est pas nécessaire qu'ils soient trois. Enfin, pour mettre des joueurs autour d'une table, il n'est pas nécessaire qu'ils soient trois. Deux pouvaient suffire, ou plusieurs. Pourquoi trois? Parce que trois boules. Les crânes sont d'une rotondité remarquable, tout à fait remarquable. Ils sont tracés au compas, ces crânes, comme les billes. Les couleurs, les deux crèmes et la cramoisie, calque exactement les couleurs des trois billes sur le tapis. Les reflets le reflet sur la bille rouge sont évidents. Sur les autres billes, dans d'autres versions, il y a aussi des reflets prégnants sur les billes, et là les billes sont blanches, sont assez unies. Que dire d'autre? J'ai à peu près fini. Il n'est pas nécessaire donc que l'isomorphisme, la morphologie soit identique dans ce dispositif. Il n'est pas nécessaire non plus que les trois personnages se présentent devant le bord du billard en triangle, comme les billes, que ce triangle soit placé exactement sur la médiane, comme les billes. Il y a donc un parallélisme absolu, immédiat, immédiatement visible, qui fait que, à ce niveau, on peut dire que le dessin des crânes se moule sur le dessin des billes, et il y a ici un exemple. Le dessin donc des crânes n'est pas réaliste, il l'est autant que le permet la ressemblance des billes qui doit être la ressemblance aux billes qui doit être première. Donc se produit sur la représentation des crânes ce que nous appelons en textique un gauchissement qui génère texture. Il y a texture. Alors qu'est-ce que c'est qu'une texture? Pour déterminer une texture, il faut quatre éléments, quatre conditions. Des conditions morphologiques et ensuite des conditions d'accréditation. Sur le plan de la morphologie, il faut des formes remarquables. Nous en avons ici deux trios de formes remarquables. Il faut que ces formes remarquables soient dans des places remarquables. Ici, ce sont les deux triangles placés sur la médiane. Ensuite, au niveau de l'accréditation, pour que l'on bascule dans un autre régime que le représentatif, que je nommerai un tout petit peu après, que vous connaissez déjà, il faut que la représentation soit, que le dispositif, ici, les éléments soient intégrés à la représentation. Ici, on voit bien que ce sont trois vieillard chauve qui regarde une table de billard, il n'y a pas de problème, au niveau, la représentation est transparente. Et la quatrième condition, il faut que ce soit indépendant de la représentation, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire autrement, on aurait pu mettre trois personnes, pour présenter trois personnages autour de cette table, on aurait pu mettre des personnages chevelus, des personnages avec des crânes ovales, des personnages, etc., etc., très différents de cela. Or, ici, on a fait les crânes en fonction des billes, et donc, on est dans un effet de surdétermination massive, parfaite, pratiquement. Il y a là un tout autre régime qui se met en place, à un premier niveau d'analyse, qui est le régime de la méta-représentation. Les éléments des crânes ont été structurés au-delà des exigences strictes de la représentation. Au-delà, c'est-à-dire en tenant compte de paramètres que la représentation, en principe, ignore. Deuxième effet de méta-représentation, l'inscription. Alors, l'inscription, déjà, au plan grammique, on peut dire que, au plan de la physionomie. Dans la physionomie de l'inscription, vous voyez cet arrondi et ces trois billes. Ici, vous avez les trois billes et vous avez cet arrondi, les dos des personnages. On voit bien qu'ici, C'est plutôt les dos des personnages qui déterminent, tout à l'heure c'était les billes qui déterminaient les crânes, ici peut-être que le dos des personnages détermine la courbure de l'inscription. L'inscription sert à plusieurs choses, hein. Elle sert à souligner le trapèze, mais elle sert aussi à comment est-elle configurée? Elle est configurée plastiquement comme le sont les dos. Et on voit bien que si l'on voulait faire un schéma de la structure, il ne faudrait pas seulement mettre les billes, il faudrait aussi mettre cette courbure-là en parallèle avec cette courbure-ci. C'est intéressant parce que ça fait une texture parallèle. On a ici un exemple de parallélisme, une rime visuelle complexe, hein, faite au moins de deux éléments, la courbure et les billes. Et ce qui est intéressant, c'est que il faudrait trouver la deuxième, voilà. Si l'on prend une deuxième version de ceci, alors comment on peut faire? Oui, ben voilà, ça suffit. Cette version-ci, qui est une version concurrente de OG également, on voit bien qu'on a joué cette fois-ci la symétrie de l'inscription et le parallélisme des billes. Bon, une autre façon de structurer la texture, hein, de la réaliser. Peut-être peut-on préférer à tous égards cette version-là, qui permet en plus d'inscrire l'adresse en dessous. C'est aussi contraint par les nécessités de la publicité, donc de la représentation. Donc il y a là un jeu de tension, de force. Vous voyez, la représentation, la métarépresentation jouent ensemble à collaborer ou à s'entrechoquer. Autre effet de surdétermination, c'est l'inscription elle-même, Billard-Branchvic. Si l'on regarde bien, ici, il y a plus de lettres que là, donc elles vont se trouver serrées. La contrainte de l'enserrer dans cet arc de cercle fait que on a texture contrainte et texture gauchie, en quelque sorte, des deux côtés. On pourrait dire que Billard, c'est pas Billard qui est normal et Branchvic qui est resserré. On pourrait se demander pourquoi Billard n'est pas resserré également. Donc, comme Branchvic, hein, si on voulait avoir une inscription homogène, elle n'est pas homogène. On a donc, alors, ce genre de texture gauchie, on l'appelle en textique une plastotexture, une texture où il y a un moulage. Hein, un moulage de, et Jean-Claude Rayon m'a opportunément donné la définition, il faut quand même parler le Ricardou, à un colloque Ricardou, et je vous livre la définition de l'orthoplastotexture. L'orthoplastotexture, c'est le couple minimal par lequel s'accomplit, selon l'ortho-auto-représentation, le moulage plus ou moins sensible d'un ortho-idéotextème sur un ortho-matériotextème. Donc ici, on pourrait montrer que l'ortho-idéotextème des crânes est moulé sur l'ortho-matériotextème des billes. Et de façon voyante. C'est ça le gauchissement. Le gauchissement est sensible dans l'orthotexture. Il ne l'est pas, parfois il ne l'est pas, parfois il l'est moins. Mais nous avons une hypothèse en textique, c'est que finalement toute texture est plus ou moins toujours ortho-plasto-texturale, parce qu'il y a toujours un moulage, même si ce moulage a été dissimulé de façon experte. Je voudrais, alors il y aurait orthoplastotexture, par exemple, si disais, voici l'août, et l'été fleuronne, mais notre chère Edith, Ergonne. Alors, Ergoné, ne me demandez pas ce que c'est. C'est ce que Edith Ergon fait l'été. Elle ergonne. Elle continue à ergonner. C'est-à-dire probablement à travailler comme une bête. Mais voilà, là on a le verbe ergonner est un gauchissement d'une activité un peu inconnue, mais probablement liée à la personnalité d'Edith, et il est là pour la rime, en quelque sorte, fleuronne, ergonne. Il y a donc gauchissement, cette fois-ci est ultra sensible, hein, de la chose, mais ultra sensible comme peuvent l'être le resserrement des lettres, hein, comme peuvent l'être la transformation des crânes en dits. Hein.
Il y a une contrainte.
Il y a une contrainte. Il y a une contrainte, mais qui se ressent, qui se voit. Alors, cela étant dit, il peut se produire des basculements. Ici, nous avons, je vais m'en tenir au plus simple, apparemment, hein, j'ai mis au tableau quelque chose qui nous permettra de comprendre le basculement qui se produit dans cette image. Ici, j'ai trouvé dans L'homme au champ, le champ premier de l'abbé de Lille, un monsieur qu'on ne lit plus, hein, Jacques de Lille, et qui est très intéressant, oui. Seuls les gens cultivés et j'en suis parfois. Donc Jacques de Lille a écrit dans L'homme au champ, premier champ, c'est une sorte d'épopée au loisir. Hein. Quand l'homme est fatigué de la vie, il va au champ et voilà ce qui se passe. Alors il décrit les repas, les conversations, le feu, le autour du feu ou alors dehors. Et dehors, il y a parfois des jeux, et il dit là, sur un tapis vert, un essaim étourdi pousse contre l'ivoire un ivoire arrondi. C'est sa description du billard. Donc à rajouter avec Roussel, hein, il y a Roussel, il y a de l'île. Attention. Alors, ce qui est très intéressant dans ces deux vers, c'est qu'il y a métarrepresentation déjà de la rime, étourdi, arrondi, c'est de, la représentation s'est astreinte à mettre ces deux mots en fin de séquence de 12 syllabes, donc la rime dit, hein, a contraint le discours à avoir cette forme-là. Bien. De même, évidemment, le rythme des syllabes, hein, le comptage des syllabes, qui est un autre élément de contrainte métarepresentative. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, que je m'enorgueillis d'être le seul à avoir. C'est que le deuxième vers, et ça commence déjà au premier, aligne bizarrement sur sept mots, cinq mots qui comportent un O. Alors qu'on est en train de parler d'un ivoire arrondi, c'est-à-dire de billes de billard. Oh, 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 oh. Statistiquement, je peux dire que c'est assez remarquable. C'est assez remarquable, c'est-à-dire que c'est assez rare pour qu'on se dise qu'il pourrait y avoir un calcul. Calcul conscient, calcul inconscient, ça n'est pas notre problème. Ça n'est absolument pas notre problème. Mais vraiment pas notre problème. L'important, c'est de savoir ce qui est fait. Ce qui est fait, c'est qu'un vers montre dans sa matière même l'icône des billes à aligner comme cela. Hein. Et alors, qu'il y en ait 6 au lieu de 3, hein, bon, parce qu'il y a le rôle de étourdi, ça fait 6 billes. Bon, ce n'est pas la carambole exactement. On aurait pu préférer un vers de 3. De 3 syllabes, de 3 mots dans lesquels il y aurait 3 O. Ça aurait été peut-être plus parfait au niveau de l'amélioration possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où Delille parle du jeu de billard, poussé contre l'ivoire en ivoire arrondi, avec les deux synecdoches de la matière, hein, qui sont tout à fait rhétoriques dans le sens le plus fontanier du terme, hein, ou
du marché du terme, la périphrase synecdochique, il y a ces hauts qui sont des ronds, qui sont des billes, en quelque sorte, de billard. Jean Ricardo avait fait remarquer qu'il y avait également des i qui pouvaient figurer les queues de billard, avec le point sur le i qui pourrait figurer la bille. Ça pourrait être entrer en ligne de compte, i, hein, i voire, oubliez le point, i voire arrondi. Il y a là autant de présentations de jeux de billard en quasi-calligramme, caché, tapis dans les grammes. Tapis dans les grammes, il y a des calligrammes. On est dans un effet de contrainte. De contrainte où l'écrit s'astreint à un certain nombre de règles, notamment mettre des images de billard à l'intérieur d'un verre, mais un petit peu comme. Il faut se reporter à ce qui se passe quand c'est sonore. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? C'est la même chose, simplement sur le plan auditif. Sur le plan auditif, il y a une harmonie imitative. Ici, il y aurait une harmonie visuelle, si on peut dire, de combiner, de tramer ce verre de façon à ce que les billards arrivent.
Il manque aussi un i sur S1.
Sur un point sur l'i.
Puisqu'on est
comme d'habitude, nous aide à mettre les points sur les i. Oui.
C'est l'homme des champs, pas l'homme au champ.
C'est l'homme des champs, d'accord. Comme quoi, on trouve toujours plus cultivé que ça. Oui. Oui, les serpents, ce n'est pas que l'auditif, puisqu'il y a le S qui figure aussi autant de serpents sur la ligne. Bien entendu. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ici, ça n'est pas auditif. Ça n'est pas auditif, on n'entend pas le choc de bille. Hein. On n'entend pas la bille. D'ailleurs, la bille fait peu de bruit, je ne sais pas si vous avez remarqué. La bille ne crie pas. Elle ne chante pas, ne siffle pas. En revanche, c'est visuel. Et alors, que se passe-t-il ici? Cette contrainte, elle vire dans le verre de Lille à la représentation. C'est-à-dire qu'elle vient souligner le fait que l'on parle de billard. D'une certaine façon, il se produit une bascule de la métarpresentation à la représentation, mais cette fois-ci, une représentation, puisque c'est déjà dit, qu'il y a jeu de billard, on le redit en mettant des O et des I. On le redit en soulignant l'expression, on le redit en expressivité, on le redit en hyper-représentation. Donc, le plus important, je crois, enfin, un des aspects sur lequel Jean-Claude avait attiré mon attention, et qu'il faut souligner dans les théories de Ricardo, c'est la possibilité de ces bascules et surtout le fait que les structures sont étichoriques, sont l'une sur l'autre. Il y a la métarpresentation et puis dessus on peut avoir de la représentation superlative, de l'hyper-représentation. Les structures ne sont donc pas figées comme le pensent certaines caricatures du structuralisme. On a affaire à des systèmes plutôt qu'à des structures, on a affaire à des dispositifs plutôt qu'à des éléments figés. Et donc, la question de savoir pourquoi il est rouge, hein, pourquoi il rougit, hein, j'y reviens, il y a plusieurs explications que j'ai testées. Il est difficile de les tester. Une des explications, c'est d'envisager la diégèse. Le 3 rougit parce que peut-être on est dans une situation de billard particulière qui a amené les 3 billes à adopter la figuration symbolique, la disposition symbolique en triangle.
dans l'ordre de l'image symbolique. Donc, est-ce que c'est lui qui a joué un coup ? Les autres regardent perplexes, examinent avec un certain flegme, mais quand même perplexes, intrigués, et lui rougit d'avoir été le fauteur de cette disposition hasardeuse. Tout d'un coup, les trois billes se sont retrouvées dans la configuration symbolique. Bon, ça c'est une explication. Une autre explication indirecte, une indirecte mise en scène par reflet étendu, en quelque sorte, on pourrait se demander si, parce qu'après il y aurait à faire toute l'analyse de la table, est-ce que c'est une table ou est-ce que ce n'est pas une enseigne de billard ? Et si c'est une enseigne de billard, ça change tout, parce que les billes figurées avec leur ombre le sont de façon picturale. C'est-à-dire que c'est une image à l'intérieur de l'image. Et à ce moment-là, on pourrait se dire que les trois personnages s'interrogent peut-être sur ce phénomène. Enfin, est-ce qu'ils sont les jouets de l'illusion ? Est-ce qu'ils sont complices de l'illusion ? Et peut-être que le rouge, alors il y aurait en quelque sorte, mais c'est très mou hein, ce que je vais dire, les deux blancs seraient des lecteurs intrigués, et puis le rouge serait le scripteur qui sait ce qu'il a fait. Et donc il est tout confus d'avoir été le fauteur de cette perplexité. Bien. Ça. Et puis il y a une troisième, mais ça c'est peut-être du délire interprétatif, hein, j'en sais rien. Il y a une troisième hypothèse qui, à mon avis, est la bonne, et c'est celle que j'ai trouvée l'autre jour en ouvrant un manuel de billard, c'est tout simplement que la carambole se joue à deux et pas à trois. Donc, le troisième est un intrus et rougit de l'être. Mais c'est ça qui est merveilleux. C'est que la rubescence de ce crâne cramoisi est finalement le signe même de l'indice même de la transformation de l'image et de son impossibilité. En principe, on ne peut pas jouer à la carambole à trois. Et à ce moment-là, peut-être que ça rebascule en métarepresentation, puisque tout d'un coup, on a une image impossible, à cause, justement, des rimes visuelles. Les rimes visuelles sont la manifestation physique de l'impossibilité de cette image. Et à ce moment-là, on aurait une image qui échappe à la représentation. Ce n'est pas la représentation d'un jeu de billard canonique, du billard français, et l'image le dit. Et l'image en rougit presque.